Chapitre 20. Le désir d'écrire taquinait de nouveau Martin. Des histoires et des poèmes jaillissaient spontanément dans son cerveau. Il les notait, avec l'intention de les mettre en forme plus tard, mais n'écrivait rien pour le moment. Il était en vacances. Il avait décidé de consacrer tout son temps au repos et à l'amour, et il prospérait dans les deux domaines. Bientôt, il déborda de vitalité, et chaque fois qu'il retrouvait route, celle-ci retombait sous le charme ancien de sa force et de sa santé en le voyant arriver. « Sois prudente, » lui rappela sa mère. « J'ai peur que tu ne vois un peu trop Martin Eden. » Mais Ruth se riait de ses mises en garde. Elle était sûre d'elle et savait que Martin devait reprendre la mer dans quelques jours. Quand il rentrerait, elle serait loin, dans l'Est. Il y avait pourtant quelque chose de magique dans la vigueur de Martin. Mis au courant de ses projets de départ pour l'Est, il éprouvait un sentiment d'urgence, mais ne savait pas comment faire la cour à une fille comme elle. Son expérience en la matière était un handicap. Les femmes qu'il avait séduites étaient par trop différentes. Elles connaissaient la vie, l'amour, la bagatelle, tandis que Ruth ignorait tout de ces choses. Sa prodigieuse innocence l'effrayait, gelait les mots sur ses lèvres et le convainquait de sa propre indignité. Et il avait encore un autre handicap, il n'avait jamais été amoureux. Il avait souvent été attiré, voire fasciné par certaines femmes dans son passé tourmenté, mais il n'avait jamais appris ce qu'aimer voulait dire. Il lui avait suffi de siffler pour les voir accourir, et tous les petits drames, les petites peines de cœur qu'il avait pu connaître n'avaient été que des divertissements de jeune homme, des jeux sans conséquence. À présent, il assumait pour la première fois le rôle de soupirant timide, d'amoureux transi en proie au doute, mais il ne connaissait pas son texte, il ignorait le langage de l'amour et redoutait la candeur de sa bien-aimée. À force d'évoluer dans un monde interlope et de s'adapter à des situations éternellement changeantes, il s'était fixé une règle de conduite qui avait pour principe de laisser toujours l'adversaire jouer le premier coup lorsqu'il participait à un jeu inconnu. Cela lui avait sauvé la mise un millier de fois et avait aiguisé son sens de l'observation. Il savait épier les faiblesses des autres et guetter les ouvertures propices pour avancer ses pions. C'était comme un combat de boxe. Il fallait attendre que l'adversaire eût baissé sa garde pour frapper, et là, frapper juste et fort. De même avec Ruth. Il attendait, il guettait et s'interdisait de déclarer sa flamme, de peur de la choquer et par manque d'assurance. Sans le savoir, il adoptait la meilleure attitude possible avec elle. L'amour est venu au monde avant le langage articulé et s'exprime par des signes immuables depuis l'aube des temps. Ce fut de cette manière primitive que Martin courtisa Ruth. Il ne s'en rendit pas compte d'abord, il ne le devina que plus tard. Le contact de sa main était 100 fois plus parlant que les mots, l'impact de sa force sur l'imagination de Ruth 100 fois plus séduisant que les poèmes et les serments de 1000 générations d'amants. Ces mots, même les plus inspirés, n'eussent parlé qu'à son jugement, tandis que le furtif contact de sa main s'adressait directement à son instinct. Or, si son jugement était aussi jeune qu'elle, son instinct était aussi vieux que le genre humain, et même davantage. Il avait été jeune quand l'amour était jeune et possédait bien plus de sagesse que les convenances et les préjugés du siècle nouveau-né. Ce ne fut donc pas son jugement qui réagit. Martin ne le sollicitait pas, il n'en appelait qu'à sa nature amoureuse, et elle restait aveugle. Elle ne voyait que l'amour de Martin et se plaisait à en contempler les manifestations. Dans les humides reflets de ses yeux flamboyants, le tremblement de ses mains et l'éternelle rougeur qui transparaissait comme une ombre pourpre sous son hâle. Elle allait même plus loin et se faisait parfois enjôleuse, mais presque inconsciemment, et si délicatement qu'il ne le remarquait pas et qu'elle ne s'en rendait pas vraiment compte elle-même. Ces preuves de son pouvoir, qui la proclamait femme, la comblaient d'aise et l'Ève qui dormait en elle prenait un plaisir malin à le tourmenter et à se jouer de lui. La langue, liée par son inexpérience et son excès d'ardeur, séducteur sans manière empêché par sa gaucherie, Martin s'en remettait à sa seule présence physique pour continuer sa cour. Le contact de sa main était agréable à Ruth, et même un peu plus. Il ne savait pas jusqu'à quel point, mais il savait du moins que la chose ne lui déplaisait pas. Non qu'il se touchasse souvent les mains, il ne le faisait que pour se dire bonjour et au revoir, mais dans le maniement des bicyclettes, l'arrimage des recueils de poèmes qu'ils emportaient dans les collines et le moment où ils tournaient les pages au cours de leur séance de lecture côte à côte. Il leur arrivait souvent de sentir leurs doigts se frôler. Et il arrivait aussi que la chevelure de Ruth effleura la joue de Martin lorsqu'ils se penchaient ensemble sur un livre. Elle souriait intérieurement des désirs impromptus et volages qui lui chuchotaient de lui ébouriffer les cheveux, tandis que lui, de son côté, contenait difficilement son envie de poser la tête sur ses genoux quand il se lassait de leur lecture pour rêver, les paupières closes, à leur avenir commun. Par le passé, à l'occasion des pique-niques du dimanche à Shellmound Park ou à Hutchinson Park, il avait souvent posé sa tête sur des genoux offerts, en dormant égoïstement à poings fermés, cependant que les filles abritaient son visage du soleil, en le contemplant avec les yeux de l'amour et en s'étonnant de sa splendide indifférence. Jusqu'à ce jour, poser sa tête sur les genoux d'une femme lui avait paru la chose la plus naturelle du monde. À présent, le giron de Ruth lui semblait l'endroit le plus inaccessible de la terre. C'était là, dans sa réticence même, que résidait son pouvoir de séduction. C'était à cause de cette réserve qu'il ne l'alarmait pas et que, distraite et abusée, elle oubliait de se méfier de la pente dangereuse que prenait leur liaison. Subtilement, insensiblement, elle se rapprochait de lui, tandis que, attentif à leur intimité grandissante, il se languissait d'oser, sans jamais s'y résoudre. Un jour, il osa. C'était un après-midi. Le salon était plongé dans la pénombre. Elle souffrait d'une terrible migraine. « Rien n'y fait, » répondit-elle à ses questions. « D'ailleurs, je ne peux prendre aucune drogue contre les maux de tête. Le docteur Hall me l'interdit. » « Je crois pouvoir vous soigner, et sans drogue, » dit Martin. « Je ne vous garantis rien, bien sûr, mais j'aimerais essayer. Il s'agit d'un simple massage, un tour que j'ai appris au Japon. C'est un peuple de masseurs, vous savez. Puis j'ai découvert que les Hawaïens employaient la même méthode avec quelques variantes. Ils appellent ça l'omi-lomi. C'est aussi efficace que la plupart des drogues, et même plus dans certains cas. » À peine ses mains eurent-elles touché sa tête, qu'elle soupira profondément. « Comme c'est bon, » dit-elle. Elle ne reprit la parole qu'une seule fois, une demi-heure plus tard, pour lui demander « Vous n'êtes pas fatigué ?» La question était superflue. Elle savait d'avance quelle serait sa réponse. Puis elle se laissa dériver dans une somnolence contemplative, bercée par le baume apaisant de sa force. La vie semblait s'écouler de ses doigts comme un fluide gommant la douleur. Bientôt, soulagée, elle s'endormit et il se retira sur la pointe des pieds. Elle lui téléphona dans la soirée pour le remercier. « J'ai dormi jusqu'au dîner, lui dit-elle. Vous m'avez complètement guéri, monsieur Eden, et je ne sais comment vous témoigner ma reconnaissance. » Il était aux anges. Il lui répondit en bredouillant de bonheur et, pendant toute leur conversation, vit danser dans sa mémoire le souvenir de Browning et de la maladie d'Elizabeth Barrett. Ce qui avait été accompli une fois pouvait l'être de nouveau, et lui, Martin Eden, il l'accomplirait encore pour Ruth Morse. Il regagna sa chambre et son exemplaire de la sociologie de Spencer resté ouvert sur son lit. Mais il fut incapable de lire. L'amour qui le tourmentait l'emportait sur sa volonté, et malgré toute sa détermination, il se retrouva devant sa petite table tachée d'encre. Le sonnet qu'il composa ce soir-là fut le premier d'un cycle de 50 poèmes d'amour qu'il acheva en 2 mois. Il s'inspira des madrigaux portugais et se lança dans la création avec fougue, sous la dictée de sa douce folie amoureuse. Quand il n'était pas avec Ruth, il consacrait tout son temps à son cycle d'amour et à la lecture, chez lui ou dans les salles publiques, où il s'informait de l'actualité littéraire et de la politique éditoriale des revues. Les heures qu'il passait avec Ruth, en revanche, le rendaient fou d'impatience, tant par les promesses que par les incertitudes qu'elles contenaient. Une semaine après la guérison miraculeuse des maux de tête, Norman, Arthur et Olney proposèrent une promenade en bateau au clair de lune sur le lac Merritt. Comme Martin était le seul capable de mener un bateau, on fit naturellement appel à ses services. Ruth s'assit à côté de lui, à la poupe, et les 3 jeunes gens, très absorbés par une conversation estudiantine, s'installèrent au milieu de l'embarcation. La lune ne s'était pas encore levée et Ruth, qui contemplait la voûte étoilée sans échanger un mot avec Martin, se sentit soudain très seule. Elle le regarda subrepticement. Une brusque risée faisait giter le bateau et, une main sur la barre, l'autre tenant la grand voile, il l'offait légèrement en surveillant son cap du coin de l'œil. Il ne sentait pas les regards de Ruth peser sur lui, mais elle l'observait avec insistance, en s'interrogeant sur l'étrange caprice qui poussait un jeune homme si doué à gâcher son temps dans de médiocres tentatives littéraires vouées à l'échec. Ses yeux errèrent de sa gorge puissante, faiblement éclairée par les étoiles, à sa tête bien charpentée, et elle éprouva de nouveau le désir de poser les mains sur son cou. La force qu'elle arborait l'attirait. Son sentiment de solitude s'accentua et elle se sentit lasse. Incommodée par sa position dans le bateau incliné, elle se souvint du magnétisme apaisant qui avait permis à Martin de calmer ses maux de tête. Il était assis à côté d'elle, tout près, et le bateau semblait la pousser vers lui. Alors, elle eut envie de s'appuyer contre lui et de se reposer sur sa force. Une impulsion vague, spontanée, incontrôlable, la fit se pencher vers lui. Était-ce l'inclinaison du bateau? Elle l'ignorait et ne le sut jamais. Elle sut seulement qu'elle s'appuyait contre lui et que cela lui faisait du bien. Peut-être était-ce réellement le roulis qui l'avait poussé, mais quoi qu'il en fût, elle ne fit aucun effort pour se redresser. Elle se laissa aller contre son épaule, imperceptiblement mais sans se retenir, et ne résista pas lorsqu'il changea de position pour la mettre plus à l'aise. C'était une folie, mais elle refusait de la considérer comme telle. Elle n'était plus elle-même, elle était une femme, avec des désirs de femme, et, si léger que fût son appui, il semblait assouvir ses désirs. Elle oubliait sa fatigue. Martin ne parlait pas. S'il l'eût fait, le charme eût été rompu, alors que sa réserve entretenait le sortilège. Il avait le vertige. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et se croyait le jouet de quelque délire. Il réprima un désir fou de lâcher la voile et la barre pour la prendre dans ses bras. Il savait intuitivement que c'était la pire chose à faire et résistait à la tentation en se réjouissant d'avoir les mains occupées à d'autres manœuvres. Mais il l'offait déjà avec moins de précision, laissant la voile faseyer, comme pour retarder l'approche du rivage, qui le forcerait à virer de bord et briserait le contact. Il s'écarta imperceptiblement de son cap pour ralentir l'allure sans attirer l'attention des autres, en bénissant secrètement ces pénibles traversées d'antan qui avaient rendu cette nuit possible en lui donnant la maîtrise des vagues et du vent et lui permettaient à présent de naviguer côte à côte avec Ruth abandonnée contre son épaule. Quand le premier rayon de lune toucha la voile, illuminant le bateau d'un reflet nacré, Ruth s'écarta de lui. Et il en fit autant. Ils avaient eu le même réflexe au même moment, éviter les regards des autres, comme pour partager un secret intime. Elle s'assit à l'écart, les joues en feu, en prenant tout à coup la mesure de ce qui venait de se produire. Elle s'était rendue coupable d'un acte qu'elle avait dû dissimuler à ses frères et à Aulnay. Pourquoi? Jamais, de toute sa vie, elle n'avait fait une chose pareille. Ce n'était pas la première fois qu'elle naviguait au clair de lune avec des garçons, mais c'était la première fois qu'un semblable désir l'avait gagné. La honte et le mystère de sa féminité naissante l'affolaient. Elle regarda furtivement Martin, qui s'activait pour virer de bord, en le haïssant d'avoir été la cause de cette impudeur et de cette turpitude. Comment, lui, entre tous les hommes? Peut-être sa mère avait-elle raison, après tout. Elle le voyait trop souvent. Cela ne se reproduirait plus. C'était décidé. Elle le verrait moins à l'avenir. Un instant, elle eut l'idée folle de lui mentir pour se justifier et se promit de lui expliquer, dès qu'ils seraient seuls ensemble, qu'une faiblesse l'avait prise juste avant le lever de la lune. Puis elle se rappela leur secret tacite, leur mouvement de recul réciproque pour éviter les regards, et comprit qu'il ne serait pas dupe de son mensonge. Au cours des quelques jours qui suivirent, elle ne fut plus elle-même, mais une créature inconnue, intrigante, incapable d'introspection, refusant de regarder l'avenir et de réfléchir à ce qui lui arrivait. Elle tâtonnait dans une forêt de mystères, tantôt effrayée, tantôt charmée et toujours perplexe. Elle avait cependant une idée bien arrêtée à laquelle elle se raccrochait pour se rassurer. Elle ne permettrait pas à Martin de lui déclarer son amour. Tant qu'il ne franchirait point le pas, tout irait bien puisqu'il devait prochainement reprendre la mer. Et même s'il parlait, cela ne pouvait pas prêter à conséquence. Elle ne l'aimait pas. Bien sûr, Ce serait une demi-heure pénible pour lui et embarrassante pour elle, car ce serait sa première demande en mariage. Cette idée la faisait délicieusement frissonner. Qu'un homme lui demandât sa main signifiait qu'elle était réellement, fondamentalement une femme. L'étoffe qui la constituait, toutes les fibres de sa vie se mettaient à vibrer. Son imagination papillotait comme une mouche attirée par une flamme. Elle croyait déjà entendre la demande de Martin. Elle lui dictait ses mots par la pensée et préparait déjà son refus, qu'elle tempérait par quelques phrases gentilles et une exhortation à changer de vie. Elle lui conseillerait surtout d'arrêter de fumer. Elle serait intransigeante sur ce point. Et puis... Mais non, elle l'arrêterait avant. Elle refuserait de l'entendre. Elle avait promis à sa mère de ne pas le laisser parler. Toute brûlante et rougissante, elle fit taire à regret ses fantasmes. Sa première demande en mariage devrait attendre un moment plus propice et un prétendant plus convenable.